Dieu lui demandera ensuite de construire là un mémorial. On y déposa donc 12 pierres en guise de témoignage pour la postérité. Ce lieu s'appelle Gilgal, ce qui signifie le cercle. Ensuite, le chapitre 4 du livre de Josué raconte longuement tout cet épisode et se termine par ces mots. Afin que tous les peuples de la terre sachent comme est forte la main du Seigneur, afin que vous craigniez le Seigneur votre Dieu tous les jours. Voilà, donc l'aura de Josué s'en trouve encore sérieusement renforcée, et heureusement pour lui parce que les tâches lourdes l'attendent encore. La première, étonnamment, sera de circoncire tous ceux qui n'avaient pas pu l'être dans le désert. Et une fois tout le monde en règle avec le Seigneur, il doit organiser la première célébration de la Pâque sur la terre de Canaan, près de Jéricho. Donc il est autant liturge et officiant. Alors lui apparut l'archange Michel, le chef des armées célestes, qui vient le préparer à prendre la ville de Jéricho. Alors, avec l'aide de l'archange Saint-Michel, la ville tomba autant par des rites liturgiques que par des combats, et l'effet sur le reste de la population fut immédiat. On se mit à craindre ces Hébreux partout parce que leur Dieu puissant les protégeait. Et pourtant, le peuple de Dieu fit de nouveau des péchés en désobéissant à la loi. Et Josué fut aussi obligé d'apprendre à punir, de purifier, de remettre de l'ordre, et parfois très violemment. Et en même temps, il continuait de mener une guerre de conquête pour faire avancer son peuple dans le pays, faisant tomber des villes avec plus ou moins de massacres selon la résistance des habitants. Mais toujours avec l'aide de Dieu, ce qui donne à cette conquête, en fait, un idéal de guerre sainte. On ne sait évidemment pas quelle est la part fantasmée de ces récits guerriers, car les archéologues aujourd'hui ne confirment pas. Il y a peut-être beaucoup de propagande ici pour affirmer une puissance autant spirituelle que matérielle. On voit d'ailleurs Josué construire aussi un grand sanctuaire sur le mont Ébal pour y inscrire une copie de la loi et venir y offrir des sacrifices. Ces nouveaux lieux saints montrent bien que la conquête de la terre de Canaan a d'abord pour but d'y installer le culte du Dieu d'Israël. Et certaines tribus locales vont d'ailleurs se laisser convertir pacifiquement et faire alliance avec Israël. Mais malgré tout, les opposants restent nombreux et on peut lire des épisodes assez cruels qui nous montrent alors un Josué inflexible et dur. Je prends un exemple au chapitre 10, dans un combat où cinq rois avaient pris la fuite et s'étaient cachés dans une caverne. Josué les débusqua, il frappa les cinq rois, les mit à mort et les fit pendre à cinq arbres où ils restèrent pendus jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué commanda de les descendre des arbres et de les jeter dans la grotte où ils s'étaient cachés. Voilà, nous sommes loin de la tendresse évangélique. Mais le rôle de Josué était de conquérir un territoire habité par des tribus païennes. Pas vraiment d'accord, ces tribus, pour les accueillir. Et Josué assuma sa fonction militaire avec bravoure. Et les villes tombèrent les unes après les autres. Tout le chapitre 12, donc qui termine la première moitié du livre de Josué, nous décrit en fait 31 royaumes, petits royaumes locaux, dont Josué avait réussi à prendre le contrôle. Et pourtant, la deuxième moitié du livre de Josué, chapitre 13, nous dit ceci. Josué était devenu vieux et avancé en âge lorsque le Seigneur lui dit, Tu es vieux et avancé en âge. Or, le reste du pays, dont il faut encore prendre possession, est considérable. Mais je les déposséderai moi-même devant les fils d'Israël. Tu dois seulement assigner un héritage à Israël, comme je te le prescris. Maintenant, partage ce pays pour qu'il soit l'héritage. Voilà. Une grande partie du territoire restait donc encore à vaincre, et la paix n'était toujours pas assurée. Mais il y avait déjà suffisamment d'espace pour que Dieu dise d'installer 9 des tribus d'Israël, parce que rappelons-nous que Moïse avait déjà donné à 2 tribus, celle de Ruben et de Gad, des territoires au-delà du Jourdain, et aussi que la tribu des Lévites n'aura pas de territoire en propre, sauf certaines villes tirées au sort sur tout le territoire. Aussi, maintenant, Josué est devenu vieux, cesse les combats pour devenir le magistrat en charge de la répartition des terres. Tout ce partage se fera par tirage au sort, selon la prescription de Moïse. Cela évitera certainement des contestations. Et les Hébreux vont alors s'installer et trouver un peu de repos. Josué, alors, sentant arriver la fin de sa vie, commence à préparer son testament. Nous lisons ça au chapitre 23. Je vous lis quelques versets. Josué, devenu vieux et avancé en âge, convoqua tout Israël, ses anciens, ses juges et ses fonctionnaires, et leur dit : Vous avez vu vous-même ce que le Seigneur votre Dieu a fait contre toutes ces nations à cause de vous, car c'est le Seigneur qui a combattu pour vous. Votre Dieu lui-même les repousse à cause de vous et les dépossède. Soyez donc très forts et veillez à agir selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. N'entrez pas chez ces nations qui subsistent encore auprès de vous. Ne faites pas mémoire du nom de leur Dieu. Ne vous prosternez pas devant eux. Si vous transgressez l'alliance du Seigneur, votre Dieu, la colère du Seigneur s'enflammera contre vous et vous disparaîtrez rapidement de ce bon pays qu'il vous a donné. Et encore plus loin, au chapitre 24, « Maintenant donc, écartez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers le Seigneur Dieu d'Israël. » Voilà, après avoir transmis à son peuple toutes ces dernières recommandations, qui sont vraiment d'ordre religieux, et que le peuple lui ait promis fidélité, Josué s'éteint alors à l'âge de 110 ans, avec la satisfaction du devoir accompli, et on l'ensevelit dans les montagnes d'Éphraïm, dans sa tribu. Et même si sa vie fut en grande partie celle d'un militaire, guerrier au service de Dieu, la tradition chrétienne a souvent fait le rapprochement entre ce Yehoshua, Josué, fils de Noun, et le Yehoshua, fils de Joseph, Jésus de Nazareth, parce que lui aussi s'est battu pour pouvoir conduire le peuple de ses fidèles vers une autre terre promise, celle du ciel, le royaume de Dieu. Le combat de Josué est un combat spirituel, celui de Jésus aussi, bien sûr, mais finalement, au-delà des affrontements militaires, on peut dire que celui de Josué fut un combat théologique pour parvenir à transmettre fidèlement la foi au Dieu unique, le Père de Jésus-Christ. À présent, je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt pour découvrir un autre visage de la Bible.
Souhaitez joindre Radio Présence, c'est très simple. Par mail, contact@radioprésence.com, par courrier, 4 rue des Feuillants, 31 300 Toulouse. téléphone au 05 62 48 63 00. Et enfin, vous pouvez interagir sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Radio Présence
sur le Cos 106.5.
Quand les coups de la vie sur moi seront tombés, quand je ne pourrai plus rien y voir, quand je serai trop attristé pour me lever, quand j'attendrai trop vite le soir, quand j'aurai perdu mes derniers lambeaux de foi, quand le ciel sera trop silencieux, quand j'aurai trop essayé, trop porté, trop froid, quand je ne lèverai plus les yeux, je me souviendrai de toi, de ce temps où comme un enfant je venais vers toi. Je me souviendrai de toi. Souvenir de lumière et souvenir d'amour me porteront dans le noir jusqu'au lever du jour. Je me souviendrai de toi. Je m'auront dégoûté de moi, quand j'aurai perdu mes idéaux, quand je cacherai mes détresses et mes défauts, quand j'aurai rechuté trop de fois, quand je saurai que je ne suis pas assez bon, quand le passé sera trop présent, quand mes prières auront alourdi le plafond, quand je ne croirai plus au pardon, je me souviendrai de toi, de ce temps où comme un enfant je venais vers toi. De toi, je regarderai ce que j'ai vu, même si je ne le ressens plus. Ce que tu as déjà fait pour moi, ce que tu m'as révélé de toi, je me souviendrai. De toi, de ce temps où comme un enfant je venais vers toi, je me souviendrai de toi. Souvenir de lumière et souvenir d'amour me porteront dans le noir jusqu'au lever du jour. Je me souviendrai de toi.
18h. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série que je vous invite à suivre dans Des clés pour vivre, une série que je consacre au sacerdoce. Aimons-nous prêtres, c'est l'intitulé d'un livre qui est paru aux éditions de Première Partie avec un sous-titre « Ces pauvres types que Dieu a choisis ». Je reçois toute la semaine, aujourd'hui vous allez donc l'entendre, c'est un cadeau aussi pour nos radios chrétiennes, c'est Monseigneur David Macaire qui a été ordonné prêtre à Toulouse, chez les Dominicains, c'était en 2001, et nommé par le pape François archevêque à Saint-Pierre et Fort-de-France en mars 2015, auteur de ce dernier livre. Bonjour Monseigneur David Macaire.
Bonjour Nathalie et bonjour à tous les auditeurs de nos radios chrétiennes.
De nos radios chrétiennes, vraiment. Tout à fait. Alors vous êtes dominicain, vous êtes archevêque, mais vous êtes aussi, et surtout, et c'est un peu cet échange que nous aurons aujourd'hui et puis tout au long de la semaine, ce livre « Aimons nos prêtres ». Pourquoi l'écriture de ce livre ?
Alors pour plusieurs raisons, dès le début, quand j'ai commencé à accompagner bien sûr des prêtres, à me mettre à leur service, alors ça avait déjà commencé depuis un moment. Comme dominicain, j'ai commencé à prêcher ce qu'on appelle les retraites sacerdotales depuis plusieurs années. Un évêque m'avait invité, je m'en souviens, Monseigneur Bernard Rousset, qui était en Charente, et qui a pris le risque. J'étais encore jeune prêtre, jeune dominicain, jeune prédicateur, et j'ai commencé à prêcher des retraites pour les prêtres. Et c'est un ministère que je continue aujourd'hui. Et dans le cadre de ce ministère, je me suis rendu compte que pas mal de prêtres... d'abord, ça m'a permis d'appréhender l'âme du prêtre, la vie du prêtre, vous voyez. De me rapprocher de ces personnages que l'on croit connaître, que l'on connaît, mais en fait, en réalité, chacun est évidemment particulier, mais ils ont une vie très, très particulière. Le monde a évolué, l'Église aussi, et la crise des abus là-dessus fait que leur vie a beaucoup changé. Alors, ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls, c'est peut-être une première chose que j'ai envie de dire. On peut dire que les instituteurs, les professeurs, les élus, les gendarmes, tous ces métiers qui sont au service des autres et qui ont une autorité, sont aujourd'hui en souffrance. Les médecins, il y a des médecins qui abandonnent leur métier. On n'aurait jamais pensé, après des années d'études et une ferveur, que ce soit possible. Et aujourd'hui, les prêtres sont aussi concernés, c'est normal, hein, nous épousons la vie du monde autour de nous. Bon. Mais il y a pas mal de prêtres aussi qui ont des interrogations sur eux-mêmes, sur leur relation avec les fidèles, leur relation avec l'évêque. Donc ce livre est venu du fait que, devenu évêque, je me suis encore rapproché de ceux qui sont mes premiers collaborateurs, ma première préoccupation, même s'ils ne le ressentent pas toujours, mais c'est vrai, et réciproquement. Et donc ce livre a jailli, naturellement des homélies que j'ai faites pour eux, notamment pour les ordinations et surtout pour les messes chrismales.
Alors on parle des prêtres, hein, vous en parlez bien, Monseigneur David Macaire. Vous avez été ordonné donc archevêque, donc ça fait près de 10 ans aujourd'hui. 10 ans, donc c'est presque un anniversaire. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un exercice redoutable, c'est la paternité sur tous ces prêtres qui vous sont au fond confiés
Alors justement, c'est l'une des grandes questions. Je vous avoue qu'aujourd'hui, compte tenu de certaines circonstances, être père, mais l'évêque est aussi un patron, est aussi parfois un juge, parfois même une sorte de procureur, parce qu'on nous demande de faire des signalements, ça change le rapport avec les prêtres. Ça change le rapport. L'une de mes grandes théories, quand je prêche les retraites de prêtres depuis quelques temps, c'est de parler de l'amitié. Voilà. Comment la relation est-elle possible? Comme disait un évêque une fois, il disait, mais on me demande d'être frère, d'être père, d'être patron, d'être surveillant, d'être maman parfois, soignant, mais aussi juge. Je peux pas faire tout en même temps. Je peux pas faire tout en même temps. Et c'est vrai. Donc il faut trouver le moyen de cette relation Nous allons vous parler de ce livre et qui est le fruit d'une vraie méditation. J'ai conçu chaque homélie comme une sorte de cadeau. Je voulais que les prêtres et ceux de Martinique en particulier qui m'écoutaient en direct, j'ai envie de dire, après chaque homélie, me disent merci pour ce que tu as dit. Ça m'a fait grandir et ça a été le cas. Et j'en étais très très fier. J'ai remercié le Seigneur pour cela. Mais j'ai aussi écrit un livre avec un prêtre dernièrement d'un dialogue parce que mais dans un tout autre cadre, parce que je sentais que ce dialogue prêtre-évêque n'était pas toujours abouti, cette relation aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a changé.
Besoin donc d'un rapprochement, besoin de créer, vous avez parlé d'amitié, oui. Besoin de travailler sur l'amitié fraternelle, au fond l'amitié dans le sacerdoce entre frères prêtres. D'ailleurs, j'en parlais avec un frère prêtre que je recevais récemment dans ces studios où vous êtes assis, qui, lui, était parfois un peu en souffrance de voir ce manque d'unité, ce manque de fraternité, au fond, ce manque peut-être d'amitié.
Ce qu'il faut recevoir actuellement, c'est que nous sommes tous un petit peu en recherche. Parce qu'il y a eu des blessures, justement. Est-ce que les prêtres doivent vivre en communauté, par exemple? Certains disent non, pas question, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas des religieux. D'autres, justement, fraternité de prêtres vivent en communauté, proposent une vie communautaire. Nous sentons bien que, pas forcément les plus jeunes seulement, certains prêtres auraient besoin d'avoir quand même un entourage. Vous voyez, beaucoup de personnes dans le vaste monde vont nous parler du mariage des prêtres, ou d'ordonner des hommes mariés. En réalité, c'est pas le premier problème. Le premier problème, c'est l'isolement humain du prêtre par rapport aux fidèles. Soit on le considère comme un grand mamamouchi que l'on va flatter, l'isolement aussi par rapport à l'évêque. Est-ce que l'évêque est un soutien dans les deux sens? Est-ce que l'évêque agit comme un soutien, mais est-ce que le prêtre lui-même considère que l'évêque est pour lui une aide, ou au contraire une sorte de surveillant, une sorte de juge? Vous voyez. Et donc ça fait que ces hommes, aujourd'hui, je ne dis pas que tout est à la volo, qu'on recherche tout, il y a quand même des choses qui sont stables, il y a quand même des bases, l'Eucharistie, le ministère, l'imitation de Jésus-Christ dans le sacerdoce, c'est absolument splendide. Mais il y a des éléments comme ça que nous sommes en train de mettre en place au fur et à mesure. Certainement l'image du prêtre va changer. Il y a eu la crise des abus, où il y a eu. Et puis il y a le monde tel qu'il est aujourd'hui, l'Église telle qu'elle est, la synodalité dont parle le pape François, et pas seulement lui, Dieu merci, nous aussi les évêques, et j'espère les prêtres, le fait d'avancer ensemble, tout ça va recomposer un peu le paysage, mais à travers des choses qui ne changeront pas. Le sacerdoce tel qu'il est, issu du Christ, le don d'hommes qui donnent leur vie pour le ministère, pour sauver les hommes, pour le salut des hommes, alors qu'eux-mêmes ne sont pas forcément extraordinaires.
Qu'est-ce qu'être prêtre? Vous ordonnez en 2001, 24 ans après, c'est quoi un prêtre? Dans ce monde moderne et dans cette église d'aujourd'hui, je vous vois sourire, Monseigneur Macaire.
Je souris,
oui,
parce que...
Vous souriez, hein,
Je me souviens d'une anecdote, parce que je suis bien sûr que j'ai été ordonné prêtre il y a maintenant près de 24 ans. Mais il n'y a pas de mais, c'est absolu, bien sûr, et c'est pour l'éternité. Et je suis dominicain, je suis religieux. Donc ma vie, ce dont nous parlons, c'est en particulier du clergé diocésain ou des prêtres en général qui sont au service des paroisses, qui ne sont pas forcément dans une communauté, même si certains sont religieux, d'autres sont fidèles de nous, d'autres sont issus du cru, d'autres sont prêtés par un diocèse à un autre, etc. C'est surtout de ces pasteurs dont nous parlons. Évidemment, pour ce qui me donne un regard légèrement extérieur, le fait avant d'être évêque, j'étais dans mon couvent, je vivais avec des prêtres, j'étais supérieur de la communauté de prêtres, il n'y a pas que des prêtres d'ailleurs, c'est différent parce que le sacerdoce justement c'est un sacerdoce authentique, et si je souriais c'est qu'un jour c'était en 2009 ou en 2010, il y avait le jubilé des prêtres que Benoît XVI avait initié, et il y a un prêtre diocésain qui était un ami très proche à Bordeaux qui me dit, mais t'es pas trop jaloux le jubilé des prêtres? Alors je lui dis, mais je suis prêtre. Elle m'a dit, ah ben c'est vrai, je n'avais même pas pensé, tu vois, comme j'étais religieux, il voyait bien que j'étais prêtre, je le remplaçais pour dire les messes, ou j'étais même vicaire à l'époque de la paroisse où nous étions ensemble. Et mais lui, pour lui, qui disait prêtre, disait le prêtre de Paris. Il n'a pas entièrement tort d'ailleurs, bien sûr. Donc il y a le sacerdoce en tant que ce ministère que nous recevons, mais il y a les prêtres diocésains. Donc le sacerdoce, c'est reprendre les gestes du Christ, notamment l'Eucharistie et le sacrement de pénitence, et le sacrement de confession. Bon, donc de réconciliation. Donc c'est cela qui est un peu l'essentiel de notre vie, mais c'est bien autre chose en réalité, surtout pour les prêtres diocésains, parce qu'il y a le ministère pastoral. Et tous les prêtres n'ont pas un ministère pastoral. Par exemple, les moines qui sont prêtres n'ont pas de ministère pastoral.
Alors on va en parler peut-être, puisque ces frères prêtres sont directement, est-ce qu'on peut parler, ils sont sur le terrain, ces prêtres diocésains qui sont donc au service de la mission. Monseigneur David Macaire, vous parlez bien.
Oui.
Voilà. Je vais vous interrompre. Je vous proposais de vous retrouver demain, ici
déjà,
même. Voilà, parce que vous êtes de passage, et on en profite, vous êtes de passage à Lourdes, dans ce sanctuaire marial, puisque vous êtes donc au service de la mission, puisque vous-même, vous êtes le prédicateur donc, d'une retraite consacrée au sacerdoce, et vous prêchez à de nombreux prêtres. Donc, bonne prédication, on vous retrouve demain, et merci.
À demain.
Clé pour vivre, l'intégrale.
Bonjour Monseigneur David Macaire.
Bonjour Nathalie, heureux de vous retrouver pour cette belle réflexion qu'on a commencée.
Alors oui, on va essayer de trouver avec vous, jour après jour, des clés pour vivre. Alors des clés pour vivre, là on s'adresse à des auditeurs qui ne sont la plupart pas ordonnés. Non, ils ne sont pas missionnés dans leur sacerdoce, ce sont des hommes, des femmes, monsieur, madame, tout le monde, ceux qui sont croyants, pratiquants quotidiens, pratiquants de la messe dominicale, ou je pense, Monseigneur David Macaire, à tous ceux qui se sont éloignés, peut-être ont quitté les bancs de l'Église suite à ces nombreux abus, scandales et douleurs. Un sacerdoce qui a été parfois défiguré, mais le sacerdoce existe toujours. Il y a des enjeux, il y a des défis. On peut parler peut-être aussi d'un réel combat spirituel, si on devait aussi aborder cette dimension un peu plus spirituelle. Qu'est-ce qui se joue autour du sacerdoce ? Que ça soit un sacerdoce en communauté, chez des frères dominicains, comme votre ordre, Monseigneur David Macaire, ou ces prêtres diocésains directement sur le terrain, en responsabilité de nombreux clochers parfois. On vous écoute et merci.
Merci Nathalie. Oui, hier on parlait de l'essence même des prêtres. Il y a des prêtres chez les moines, des prêtres chez les religieux. Il y a aussi des prêtres, et surtout c'est ceux que l'on connaît le mieux, qui sont, que vous dites, sur le terrain, je veux dire, au milieu du peuple, au milieu du troupeau du Seigneur. Alors on dit que les pasteurs sont soit devant, soit au milieu, soit derrière le troupeau, mais en tout cas ils sont là avec le troupeau. Alors ça dépend du ministère confié par l'évêque. Et ça dépend de la personnalité et du charisme. Là aussi, voilà une vraie question qui se pose. Est-ce que tous les prêtres ont le charisme d'être, on dit aujourd'hui, le leadership, d'exercer un leadership, ça veut bien dire, de conduire le troupeau d'ailleurs en anglais, d'être quelqu'un qui va diriger, gérer les conflits, parce qu'il y en a toujours dans une communauté, choisir les ceux qui sont au service des autres, et puis certains ont ce talent, cette grâce. Ça paraissait plus évident avant, si j'ose dire, toute la société finalement. Tout le monde savait quoi faire, quoi dire, chacun était à sa place, et c'est le cas de le dire, les brebis étaient bien gardées. Aujourd'hui, les choses sont devenues plus charismatiques, les lignes ont bougé, notamment, il y a des fidèles qui exercent, et tant mieux, et c'est le souhait, non seulement de Vatican II, mais pour aller plus loin, c'est le souhait de l'Évangile, que le baptême de chaque fidèle lui donne une mission. Sa lettre de mission, c'est son certificat de baptême. Vous voyez ? Et donc, il ne s'agit pas d'avoir un clergé qui serait sur les planches, qui dirige tout, et des fidèles qui suivent, qui assistent finalement à la prestation de ces messieurs, le curé. Donc ça, c'est terminé. Les curés en sont très conscients, je crois. On parle aujourd'hui parfois de cléricalisme, etc. Et puis arrive, on ne peut pas ne pas y faire référence en permanence, la question de la crise des abus ou des prêtres, en petit nombre, certes, mais on violemment blessé d'abord des hommes et des femmes, des victimes, mais aussi, c'est une autre forme de victime, tous les prêtres, l'image même du sacerdoce, voire l'image du Christ Jésus lui-même. Et là, c'est une condition particulière de notre époque, ça va durer pendant quelques années, pour les prêtres d'aujourd'hui, de vivre ce ministère, parce que être prêtre, c'est d'abord un signe. C'est d'abord être signe de la miséricorde de Dieu à travers une humanité. Ça, c'est pour ça que le sous-titre du livre que vous tenez en main, hein, c'est « Ces pauvres types que Dieu a choisis ». Oui, ces pauvres types. Et même, il y a un autre titre que je voulais, mais qui est aussi dans le livre. Dieu, le prêtre, la miséricorde a fait le prêtre pour que le prêtre fasse miséricorde. C'est-à-dire qu'on a longtemps oublié, c'est peut-être ça qu'il y a de nouveau, c'est le point, on va dire, positif, mais avec de gros guillemets, de cette affaire-là, de ces affaires douloureuses, c'est qu'on a peut-être pensé que les prêtres étaient des saints, et que c'est au nom de leur sainteté personnelle, c'est valable pour les évêques aussi, j'en suis un, et prêtre avant d'être évêque, et diacre avant ça encore, c'est pas au nom de notre sainteté personnelle que nous annonçons l'évangile. Pas plus qu'un une mère ou un père de famille n'annonce la vérité n'éduque ses enfants parce qu'ils seraient mieux ou plus parfaits moralement. Parfois on a fait même pire que nos enfants. Si nous annonçons l'évangile, c'est parce que il est la vérité, il est le Christ. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, le visage du sacerdoce change de ce point de vue-là. Certes, le saint curé d'Ars, c'était lui-même un saint, et on allait vers cet homme. Et Paul VI a dit qu'aujourd'hui, les gens écoutent davantage des témoins que des maîtres. Et quand ils écoutent un maître, c'est d'abord parce qu'il est témoin. Et c'est vrai qu'on demande aux prêtres d'être témoins, d'être un peu exemple de la parole qu'il porte. Mais il ne faut pas que le peuple de Dieu soit suffisamment immature pour se dire, ben forcément, comme il est prêtre, c'est un saint, comme il est prêtre, il a tous les talents, toutes les compétences, il n'est jamais fatigué, il n'est jamais dans la misère, donc il n'a pas besoin de la miséricorde. On ne fait jamais, un prêtre me disait l'autre jour, on ne fait jamais miséricorde à nous. Jamais. Il n'y a pas de miséricorde. Une erreur du prêtre, et c'est, alors là, c'est fini, il est blackboulé. Alors c'est aussi parce qu'on attend beaucoup du prêtre, on attend beaucoup de cet homme, et on attend beaucoup de son ministère, plutôt on attend beaucoup de Jésus à travers lui, ça c'est vrai. Et c'est légitime. Mais il faut pas avoir cette immaturité de confondre la mission qu'il a reçue, qui est sainte, et la personne qu'il apporte. Comme dit saint Paul, nous portons des trésors dans des vases d'argile. Et les prêtres sont, en Martinique, quand je prêche là-dessus, je dis, mesdames, les prêtres, ils sont comme vos maris, avec les mêmes défauts, sauf que Dieu les a choisis, voyez. Alors là, les dames me regardent, les dames, c'est pas possible, un prêtre peut pas avoir les mêmes défauts que mon mari. Il dit, si, c'est la même humanité, c'est la même patte humaine. Et c'est là, c'est Dieu qui l'appelle, qui a appelé cet homme. Donc si vous commencez à le flatter, à le mettre sur un piédestal, à l'encenser, ou encore, et c'est la même chose, à le flinguer, si j'ose dire, à le cribler de flèches, eh bien, il va tomber. Il va tomber.
Donc adressons-nous directement aux auditeurs. Vous entendez, chers auditeurs de nos radios chrétiennes, Monseigneur David Macaire, vous nous montrez un peu le chemin, vous nous rappelez le chemin. Attention de trop flatter nos prêtres ou nos évêques. La flatterie n'est jamais trop bonne.
Non, elle n'est jamais bonne.
Elle peut être un danger, même sur un plan spirituel.
C'est un danger spirituel.
Qui peut conduire à un orgueil monstrueux.
Un orgueil
suffisance.
Alors, c'est une immaturité, justement, c'est la synodalité dont parle le pape François, c'est cela. C'est le fait que justement on va avancer ensemble. Parce que parfois, l'intérêt de mettre le prêtre sur le piédestal, c'est pour les fidèles se dispenser de s'aimer entre eux. Comme on met un gourou voilà. Donc là, il faut ni prendre la place du prêtre, ni non plus se considérer comme des pauvres personnes qui n'ont rien à dire, voilà. Il faut trouver une juste façon d'avancer ensemble en Église.
Alors j'ai entendu aussi cette parole, on ne nous fait, alors de la part d'un prêtre, on ne nous fait jamais miséricorde à nous, les prêtres. Oui. Ah, c'est touchant.
Le jour de mon ordination, vous faisiez référence à l'instant, ou hier, je ne sais plus, en 2001, à Toulouse, Monseigneur Brugès, dominicain, qui avait été mon provincial aussi, m'avait remis l'habit, qui nous avait ordonné prêtre, disait dans son homélie, les gens vous recevront avec une générosité que vous ne soupçonnez pas. Ils seront capables, prêts à vous donner tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont, si vous les accueillez avec la plus grande miséricorde. Ils vous confieront toutes leurs souffrances, leur petitesse, leurs blessures, leurs faiblesses. Par contre, soyez-en avertis en cette matière. La réciprocité est aussi rare que le phénix. Vous voyez, je récite par cœur cette homélie. Hein? C'est-à-dire, il disait, non, vous, ils n'accepteront pas de vous des faiblesses. Ils acceptent, et c'est vrai, et c'est, d'une certaine façon, c'est légitime. Parce que le prêtre, il porte certes un vase d'argile, mais il porte un trésor.
C'est un autre Christ.
C'est toute la
différence.
Est absolument
permettez-moi, Monseigneur David,
mais ça nous
Macaire,
écrase.
Sans idéaliser nos frères prêtres ni évêques, le prêtre, au jour de son ordination,